Vous êtes sur RTL. Oui.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 4 mai, et si on se mariait devant ceux qu'on aime? À partir du 19 mai, les cérémonies pourront reprendre en extérieur puis en intérieur. Et il y aura peut-être des mariés du côté de Saint-Pierre-le-Vieux en Saône-et-Loire. C'est le coup de cœur de notre correspondant. Vous verrez que l'amour est dans le pré. La fin du masque en extérieur, Olivier Véran l'espère pour cet été. Nous verrons avec l'épidémiologiste Philippe Amouyel quels sont véritablement les risques. Dans RTL Midi aussi, bouillabaisse électorale chez les Républicains, mais ils ne veulent pas exclure Renaud Muselier qui flirte avec LREM. L'autre portrait de Nordal Lelandais, celui dressé par ses ex-petites amies ce matin devant les assises de Savoie, dessine un homme menteur, manipulateur et jaloux. Le PSG n'a que 7% des chances de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions en Angleterre face à Manchester City ce soir, mais Nicolas Georgerot veut y croire. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Ça décoiffe dans le Nord, pas
oui,
vous,
oui,
mais
oui.
Moi
non, pas moi, mais 130 km/h, c'est vrai, ce matin enregistré du côté du Nord-Pas-de-Calais, et en ce moment on a encore 80 à 100 km/h au nord de la Seine en rafale, et ça va continuer comme ça tout au long de l'après-midi, au passage d'une perturbation qui a donné de la pluie au nord de la Loire ce matin et qui cet après-midi s'étalera de l'Atlantique jusqu'au nord-est avec toujours des nuages, de la pluie. L'extrême sud, entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes du Sud, là on restera à l'écart de cette dégradation nuageuse et pluvieuse avec une belle luminosité. Et puis au nord de la Loire cet après-midi on trouvera quelques éclaircies, mais avec encore des rafales de vent et surtout des averses, le tout avec des températures fraîche pour la période, hein, 11 à 15 degrés, pas plus dans la moitié nord alors qu'on devrait dépasser les 20 degrés, 16 à 21 dans la moitié sud.
La question du jour sur RTL.fr, le port du masque à l'extérieur vous paraît-il encore essentiel? Vous êtes très partagé, c'est intéressant, 50% de oui, 47% de non. Bonjour Pascal Pro.
Eh bien on pourra prolonger effectivement, bonjour Christelle, cette discussion, est-ce qu'il faut enlever cette obligation? Vous pourrez nous répondre. Policier, pourquoi tant de haine? Comment expliquer cette violence contre les forces de l'ordre? Ça aussi c'est un sujet qui revient régulièrement à la une de l'actualité. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a-t-il raison de vouloir interdire l'écriture inclusive à l'école? Michel Sardou ce matin sur le féminisme, sur l'écologie, sur le féminisme, il dit ceci: je ne suis pas de tous les féminismes, je suis plus près d'une madame Badinter que d'une dame qui dit qu'elle ne veut pas se marier parce qu'elle ne veut pas être violée tous les soirs. Vous pourrez réagir, on pourra pourquoi pas le réécouter. On pourra évoquer également le Paris Saint-Germain, 7% de chance, avez-vous dit? Je pense que c'est plus quand même. Statistiquement, ça doit être ça,
oui,
7%. Mais je trouve que le PSG a un peu plus de chances de se qualifier quand même ce soir. Je l'espère.
Donc ils vont perdre.
Si je vous remercie. C'est pour ça que je voulais dire ça. Je vous remercie, Christelle.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
On ne sait pas quand les jours heureux reviendront, mais on s'en rapproche. À partir du 19 mai, le mariage redevient une fête. Les cérémonies vont pouvoir reprendre en extérieur d'abord, puis en intérieur. 40 000 unions sont attendues au mois de juin. Les amoureux pourront se dire oui, et plus en catimini, Armelle Lévy.
C'est vrai, à compter du 19 mai, les mariages, donc toute la partie restauration et soirée dansante, pourront se tenir à l'extérieur ou sous un chapiteau. Et à partir du 9 juin, les mariages pourront se tenir à l'extérieur et à l'intérieur, mais avec une jauge de 50%. C'est un soulagement pour les futurs mariés comme Amélie. Elle a invité une centaine de personnes pour son mariage à Marseille le 12 juin prochain.
On a du mal à y croire, honnêtement, on a du mal à y croire qu'on va pouvoir le faire et waouh, enfin quoi.
Mais Amélie a bien prévu de danser toute la nuit, donc il reste un gros problème pour les mariés, la question du couvre-feu. Comment faire la noce si le repas doit se terminer à 21h en mai et à 23h en juin? Mélissa Humbert-Ferrand de l'UPSE, qui représente les professionnels du mariage, négocie en ce moment même avec le gouvernement.
Les invités qui logent sur place ne seraient pas concernés par ce couvre-feu. La question se pose pour les convives qui souhaiteraient rentrer au milieu de la nuit. Est-ce que le motif dérogatoire, le motif impérieux va s'appliquer ou non? Mais là, on attend pour le coup la décision du Premier ministre.
Donc pour l'instant, le conseil, c'est de demander aux invités de prévoir un hébergement sur place.
Et pour que la fête reprenne, il faut aussi accélérer sur la vaccination. 16 millions de Français ont reçu au moins une dose, 6 millions 6 les deux, ils sont de moins en moins réticents. Et le gouvernement veut encore accélérer. 5 millions de doses sont attendues dans les prochains jours, Odile Pouget.
Oui, c'est deux fois plus que la semaine dernière et ce sera par ailleurs, il faut le noter, un record, car les prochaines livraisons prévues jusqu'à fin juin seront un peu plus modestes. Alors on va avoir de tout, du Pfizer, du Moderna pour une grosse moitié. Les doses affluent et les demandes demande explose. Selon la plateforme Doctolib, 1 300 000 personnes ont pris rendez-vous entre mercredi et dimanche. C'est 60% de plus que la semaine dernière, avec une accélération particulièrement marquée dans 4 régions, Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a reçu sa deuxième dose du Moderna après une première dose d'AstraZeneca. On va souvent mélanger les vaccins ?
Non, c'est une stratégie qui concerne seulement les moins de 55 ans qui en effet ont reçu une première dose d'AstraZeneca entre début février et la mi-mars, date à laquelle ce vaccin a été déconseillé pour cette tranche d'âge en raison de très rares cas de thrombose. Ils sont environ 550 000 dans ce cas. En respectant un délai de 12 semaines après leur première injection, ils peuvent prendre rendez-vous directement au centre de vaccination pour recevoir un vaccin à ARN messager, soit Pfizer, soit Moderna. Il leur faut juste cocher la case rendez-vous de seconde injection. Aucune raison de craindre des effets secondaires particuliers avec le fait de changer de vaccin, assure la Haute Autorité de Santé. Quant à la réponse immunitaire, elle devrait être très bonne, selon les autorités sanitaires.
Odile Pouget, dans les EHPAD, aujourd'hui, plus des trois quarts des pensionnaires ont été vaccinés avec les deux doses, ce qui leur redonne enfin un peu de liberté après une année d'isolement, de privation. La défenseure des droits vient de rendre un rapport consacré à nos anciens dans les EHPAD, et ceux qui avaient déjà perdu leur autonomie ont parfois aussi perdu leur dignité, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, la défenseure des droits relève que faute de personnel, les droits élémentaires des personnes âgées, en termes d'hygiène en premier lieu, sont souvent bafoués. Cette maltraitance, le mot est écrit noir sur blanc, s'aggrave depuis la crise sanitaire. Le droit de voir sa famille, le droit d'aller et venir n'ont pas été respectés pendant plusieurs mois contre la volonté des intéressés, sur la seule appréciation des directions d'EHPAD et sans base juridique. Alors parmi la soixantaine de recommandations que fait le défenseur des droits, la nomination systématique d'un référent consentement dans les établissements, un ratio minimal de personnel de 0,8 effectifs à temps plein par résident, soit 4 salariés pour 5 résidents, un contrôle des restrictions de liberté par les agences régionales de santé afin qu'elles soient proportionnées et limitées dans le temps, ou encore des moyens de communication pour tous les résidents, téléphone, visioconférence, mail ou lettre, ou bien encore obliger les EHPAD à assumer leurs responsabilités en cas de vol ou de perte des biens des résidents.
Marie-Bénédicte Allaire, jusqu'à quand va-t-on devoir porter le masque à l'extérieur ? C'est le débat du jour, on y vient dans un instant.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Quand va-t-on enfin revoir des visages non masqués ? Dans les Alpes-Maritimes, le port du masque est assoupli à partir d'aujourd'hui en extérieur, sur les plages, le littoral et les espaces verts. Olivier Véran, le ministre de la Santé, expliquait ce matin « J'espère sincèrement que la fin du masque en extérieur, ce sera pour cet été. » D'où la question du jour sur RTL.fr. Le port du masque à l'extérieur vous paraît-il encore essentiel ? Vous avez choisi d'en parler avec les auditeurs au 3210, Pascal Pro.
Exactement, c'est médicalement inutile, aucun cluster à l'extérieur, il n'y a pas ou il y a peu de contamination à l'air libre. Il y a un consensus sur ce sujet, ce qui est plutôt rare depuis le début de la pandémie. C'est médicalement inutile et c'est symboliquement contraignant. On est bâillonné au sens premier. L'État nous prend pour des enfants. Pourquoi pas une muselière ? Moi, j'ai toujours trouvé ça choquant. C'est inutile médicalement, c'est contraignant symboliquement et c'est dangereux politiquement parce qu'à un moment, les gens peuvent en avoir assez. Et quand on a dépassé les bornes, comme vous le savez, il n'y a plus de limite.
Alors, pour aller plus loin, nous sommes avec Philippe Amouyel, qui est épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce médicalement inutile, comme le dit Pascal à l'instant ?
Alors, c'était médicalement inutile quand on a en particulier commencé l'épidémie de Covid. Et puis tout d'un coup, c'est devenu médicalement utile pour limiter la propagation. Maintenant, en extérieur, ça dépend des conditions dans lesquelles on est en extérieur. Je crois que ce qu'il y a de plus intéressant à voir, c'est les pays qui sont suffisamment avancés pour commencer à tomber le masque en extérieur. Pour ça, c'est Israël et les États-Unis, qui ont mis en place un certain nombre de recommandations. Alors Israël, avec un taux de vaccination qui est très important, 80% de la population des plus de 20 ans a déjà reçu les deux doses au 18 avril. Donc là, ils ont arrêté le masque en extérieur, mais on le maintient dans toutes les zones fermées. Si vous êtes en transport, si vous prenez le métro, vous devez le mettre dans le métro, mais quand vous sortez du métro, vous pouvez l'enlever. Ce qui est plus intéressant, c'est les États-Unis. Parce qu'en fait, eux, maintenant, sont à 44% de vaccination et ont fait des remarques spécifiques pour ceux qui sont vaccinés et ceux qui sont non vaccinés. Pour les non vaccinés, il précise également qu'il est quand même possible d'avoir des mouvements à l'extérieur quand on est isolé, quand on fait tout seul du vélo, ça a du sens. En revanche, lorsqu'on est dans des zones bondées, dans des spectacles en public, là, il continue à recommander le port du masque.
Mais pour le masque en extérieur, il faut avoir vacciné quel pourcentage de la population pour pouvoir le tomber véritablement ?
Alors pour l'instant, on ne le sait pas, puisque les seules expériences que l'on a, ce sont celles d'Israël et, et des États-Unis. Vous voyez qu'ils sont à peu près à 40%, et l'Israël est bien au-delà, hein, il est à 61% sur l'ensemble de sa population. Donc je pense qu'en effet, hein, si on regarde les prévisions, si on atteint un seuil au moins 50% de Français vaccinés à la fin du mois de juin, on peut commencer à espérer à pouvoir, dans des conditions raisonnables, pour les gens vaccinés et peut-être pour les non-vaccinés, commencer à avoir un espoir de réduction d'utilisation du masque réellement en extérieur à partir de l'été.
On dit que les contaminations à l'extérieur ne représentent qu'entre 0,5 et 5 % des cas. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Pourquoi les épidémiologistes ne sont pas d'accord ?
Ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer. Pour pouvoir mesurer ça, il faut pouvoir faire le tracing des personnes qu'on a contaminées, le tracing des personnes qui vous ont contaminé. Ça, c'est quelque chose qui est difficile dans le système français. On n'a pas mis en place un certain nombre d'études comme les ont faites les Anglais ou les Japonais ou les Chinois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est à un niveau de contamination important qui fait que les études de tracing et de rétro-tracing sont extrêmement difficiles à faire actuellement de manière sérieuse quoi, et de manière systématique. Donc, difficile d'estimer dans les transports, par exemple, la possibilité de cluster ou même à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a des chiffres qui varient en fonction des conditions qui ont été prises par les scientifiques qui ont fait ces études.
Est-ce que la chaleur limite ou pas le risque ? Parce qu'évidemment, c'est ce qu'on attend tous pour cet été.
Alors oui, apparemment il y aurait une sensibilité du virus à la température extérieure et également au degré d'humidité. Alors est-ce que ça le limite ? Parce que quand il fait chaud, vous avez plutôt tendance à aérer et vous avez plutôt tendance à sortir. Donc ça peut être à la fois un effet de la météo, ce qui doit être un effet mais relativement faible. En revanche, il y a un effet comportemental qui est beaucoup plus important. De même que l'hiver, on a plus de contamination parce qu'on a plus tendance à rester confiné. Donc le beau temps participe de l'élargissement de l'aération, puisque c'est ça l'enjeu essentiel, c'est l'aération.
Aérer, voilà, c'est ce qui reste essentiel. Merci beaucoup, merci à Philippe Amouyel pour votre décryptage, professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonne journée. Dans l'actualité, il y a aussi LR au bord de la crise de nerfs. Le comité stratégique des Républicains s'est réuni ce matin pour trancher le cas Muselier qui a pactisé avec la majorité dans la région PACA pour les futures élections régionales. Une discussion aussi longue que musclée. Et à l'arrivée, pas de fumée blanche, Marie Mollet ?
Non, pour l'instant, pas de fumée blanche. Rien n'a été décidé. Ce matin était plutôt l'occasion d'un grand règlement de compte entre amis. Plus de critiques, attaques en règle. Renaud Muselier mis sous pression pour désavouer Jean Castex. Même si à la sortie, le patron des Républicains, Christian Jacob, a tenté de faire bonne figure. À l'entendre, tout va bien, Madame la Marquise.
Non, 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 aucune division. Je suis satisfait que nous ayons cette réunion de la clarté. Il y a eu depuis 3-4 jours beaucoup de confusion. Il fallait remettre de la clarté. Je fais confiance à Renaud Muselier pour remettre de la clarté.
Alors Renaud Muselier lui a demandé un sursis pour clarifier. Va-t-il écarter les députés En Marche de sa liste ? Quid des parlementaires LR ou des élus locaux En Marche ? Il jure qu'il prendra sa décision sans aucune pression du camp macroniste.
C'est moi qui décide, monsieur. C'est moi qui décide. Ce n'est pas le Premier ministre qui décide pour moi, ce n'est pas le Président de la République qui décide pour moi, ce n'est pas ma formation politique qui décide pour moi, je suis un homme libre et je le fais avec mes amis dans le cadre de mon travail que j'ai toujours fait au sein de ma famille, que tout le monde reconnaît. Moi, je n'ai jamais trahi, monsieur.
Alors, un prochain rendez-vous est fixé ce soir au siège des Républicains, mais le flou reste total. Commentaire guillotine d'un stratège LR. Finalement, on fait ce qu'on sait faire de mieux, se foutre sur la gueule juste avant les élections.
Et la journée sera longue. Merci Marie Mollet. Au deuxième jour du procès de Nordal-Lelandais devant les assises de Savoie, ses ex défilent à la barre. L'homme soupçonné d'être un tueur en série et qui comparait pour le meurtre d'Arthur Noyer s'est appliqué hier à passer pour un homme presque ordinaire. Mais son image s'écorne sérieusement ce matin, Serge Puyot.
Oui, des ex-petits amis qui ont décrit un Nordal-Lelandais menteur, manipulateur, jaloux, possessif, violent lors de leur séparation. Après avoir été attentionné avec ses compagnes au début de leur relation, l'ex-militaire a montré ensuite son vrai visage, selon ses ex. Plusieurs restent traumatisés par ses expériences. Elles se souviennent d'un homme addict au sexe, adepte de relations sadomasochistes qu'il fallait satisfaire. Virginie reste marquée par sa relation avec le Landais.
C'était un passage assez traumatisant. Il supporte pas l'échec, il supporte pas qu'on soit plus forte que lui, qu'on lui tienne tête. Et ça, c'est pas possible pour lui. Donc du coup, il part dans une frustration, il a besoin de déchaîner cette puissance et cette colère. Dû à la séparation, donc des insultes, des menaces, agressions. Quand il dit « je vais te faire bouffer le carrelage » ou « je vais te tuer », ouais, on a peur. C'est devenu quelqu'un de dangereux, très dangereux, ouais.
Cet après-midi, ce sont les gendarmes qui ont mené l'enquête ayant abouti à l'arrestation de Nordal Le Landais qui viendront témoigner à la barre.
Serge Puyot au palais de justice de Chambéry avec le témoignage de cette jeune femme recueillie avant le procès. La disparition d'une grande journaliste, Michèle Léridon, avait été directrice de l'information de l'agence France Presse. Elle était membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel depuis 2 ans. Elle est décédée à l'âge de 62 ans. Une pause et dans un instant, le PSG au pied du mur.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Un exploit sinon rien. Le PSG doit gagner en Angleterre face à Manchester City 2-0 ou en marquant 3 buts pour atteindre de nouveau la finale de la Ligue des Champions. Statistiquement, il n'a que 7% de chances d'y arriver. Et en plus, Mbappé n'est pas sûr d'être titularisé. Mais on peut regarder le verre d'eau à moitié plein. Comme le disait Marquinhos la semaine dernière, il nous reste encore 90 minutes, Nicolas Georgerot.
Et oui, exactement, avec cette idée que le bateau parisien a tangué au match aller, mais qu'il n'a pas coulé et qu'il est prêt à se remettre à flot. Le PSG porte en bandoulière cet esprit revanchard, la volonté du capitaine Marquinhos, les propos guerriers de Neymar. Attention à ne pas déjouer d'ailleurs sur cet aspect comme en 2018 face au Real Madrid en 8e de finale retour. Marco Verratti, le milieu de terrain, a insisté, il faut profiter de ce moment dans une carrière.
On va arriver en finale et pour arriver en finale, il faut gagner avec ce début d'écart. C'est pour ça que ça change un peu, mais on a une équipe qui débute tous les matchs avec l'envie de gagner. Nous, on est les principaux acteurs. Il faut être vraiment heureux, jouer un bon football, jouer avec le ballon, personnalité, caractère, parce que si on va arriver en finale, on a besoin de tous ces ingrédients.
Le groupe parisien fait corps à l'image de l'effectif parti quasi au complet en Angleterre. Gay suspendu, Dagba blessé accompagne par exemple leur coéquipier Mauricio Pochettino en meneur d'hommes. C'est l'une de ses forces et sera de faire comme il y a 2 ans lorsqu'il avait renversé l'Ajax avec Tottenham dans une demi-finale retour totalement folle.
À Manchester City PSG, rendez-vous dans notre soirée spéciale RTL Ligue des Champions à partir de 20h45. À l'étranger, l'Égypte est décidément le plus gros client de Dassault. Elle confirme l'achat de 30 avions de combat Rafale supplémentaires à la France, un contrat à près de 4 milliards d'euros financé par un prêt sur 10 ans. Une catastrophe à Mexico, un pont s'est effondré au passage d'une rame de métro, elle a plongé dans le vide, c'était au sud de la capitale. Le bilan provisoire fait état de 23 morts et 70 blessés. Des dizaines de sauveteurs s'appliquent à dégager les passagers dans un amas de métal, de gravats, de câbles et de rails déformés.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons en Saône-et-Loire pour une demande en mariage XXL. Un message géant dans un pré à Saint-Pierre-le-Vieux avec la question rituelle. Prête à m'épouser, aussi insolite que discrète, Frédéric Perruche.
Ah oui, côté discrétion, c'est parfaitement réussi. Les lettres constituées de paille mesurent 15 mètres de haut et la phrase « prête à m'épouser » s'étend à vue d'œil sur une bonne centaine de mètres dans ce vert pâturage. Une demande en mariage qui n'est pas passée inaperçue dans ce petit village de 350 âmes, Delphine la boulangère.
Quelle femme ne serait pas contente quand elle ouvre ses volets le matin de voir ça ? J'avoue que nous, les femmes, on se dit, purée, on aurait bien eu à avoir une demande comme ça. Il a mis la barre hyper haute hein, pour ceux qui ne sont pas mariés, hein, les jeunes. Non, non, tout le monde en parle, bien sûr, ça fait du bien. On ne parle pas masque, Covid et vaccins et voilà. Je trouve qu'il a eu une bonne idée.
Le demandeur, un trentenaire du village, a passé une nuit entière avec 3 copains à installer les lettres géantes, mais le jeu en valait la chandelle, selon le maire de Saint-Pierre-le-Vieux, Cédric Grandperret.
Bah, elle s'est inquiétée parce que naturellement il est rentré plutôt au petit matin, donc il s'est fait un petit peu gronder. Hein. Et quand elle a ouvert ses volets puis qu'elle a vu ça, voilà, elle a été émue quoi. Et après, elle s'est prête au jeu parce que elle a répondu de la même façon. Bah, elle a répondu oui, tout simplement. Ah. Elle a réécrit dessous, un petit peu plus petit, oui, tout simplement. Et donc ça, c'est ce qu'on a découvert ce matin. Je me réjouis de les marier, je vous cache pas.
Alors le jeune couple veut rester anonyme bien sûr, mais pourrait se marier dès l'été prochain.
Ben oui, puisqu'ils le peuvent, hein, avec des invités à partir du 19 mai. Les confessions exclusives de Michel Sardou ce matin sur RTL. Il a reçu Steven Bellery et Bernard Lehu à l'occasion de la sortie jeudi de son autobiographie intitulée « Je ne suis pas mort, je dors ». Et il n'a rien perdu de son franc-parler. L'auteur de « Femmes des années 80 » est très agacé par certaines femmes des années 2020.
Je ne suis pas anti-féministe, mais je ne suis pas de tous les féminismes. Je vais vous expliquer, si vous voulez absolument qu'on foute la merde. Je suis plus près de Mme Badinter, ça je suis féministe, là, que d'une dame que j'ai entendu dire un jour « je ne veux pas me marier parce que je ne veux pas être violée tous les soirs ». Là, je ne suis pas féministe. Là, c'est la reine des cons. Là, là j'en veux pas. Comme je ne suis pas non plus dans le genre genré de cette dame qui dit à la télévision « mon fils voulait être une fille depuis qu'il a 4 ans ». Vous vous souvenez, vous, à 4 ans, si vous vouliez être ? Moi non plus, je ne savais pas qu'il y avait un sexe, moi, donc à 4 ans. Donc... Oui, quand j'entends des conneries comme ça, là, le côté grande gueule fait son apparition. Mais le féminisme qui consiste à rétablir les salaires à la même qualité de travail, bien sûr. Respecter les femmes, mais bien sûr.
Pascal Praud, je sais que vous aimez son franc-parler, Michel
mais
Sardou.
J'ai envie de dire, ce que je vais vous dire est improuvable, mais il y a 95% des gens qui nous écoutent qui pensent précisément chacune des phrases qu'il vient de dire. Et pour une raison obscure, dans l'espace médiatique, on entend des imbéciles parler depuis des mois et des mois. Donc il a
ils
raison.
Ils ont le droit d'avoir une autre opinion mais, que la sienne aussi.
Les imbéciles ont le droit de parler. Vous avez parfaitement raison. Mais effectivement...
Tout le monde est potentiellement l'imbécile de quelqu'un d'autre.
Vous avez aussi raison. Mais quand effectivement un enfant de 4 ans... quand on imagine qu'un enfant de 4 ans puisse avoir un avis sur être un homme ou une femme et qu'on puisse entendre cela, effectivement, je dis, il y a danger... Et c'est ce qu'il dit, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, sur ce type d'analyse qu'on peut avoir ou de comportement ou de phrases qu'on a dans l'espace public. Ce qui n'existait pas il y a quelques années. Effectivement, il y avait ceux qui allaient jusqu'au micro avaient une pensée parfois peut-être plus structurée, disons.
Bon, on va dire que ce sera l'un des thèmes que vous abordez.
Vous n'êtes pas d'accord, je sens que.
Non, pas du tout. C'est juste qu'il n'y a pas, que votre avis, il peut y avoir des.
Mais est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que 95% des gens sont sans doute d'accord avec ce qu'a dit Michel Sardou.
Et les autres sont des imbéciles.
Mais il peut en avoir, oui, ça peut exister, effectivement. Il peut avoir des imbéciles, ça peut exister, bien sûr. Oui, ça peut exister, ne l'excluons pas.
Le débat est ouvert aux
sur certains
et aux
sujets.
Autres.
Sur, mais on est toujours imbécile sur un sujet, pas sur un autre. Hein, vous avez parfaitement raison. Mais il y a des pensées, effectivement, qui peuvent étonner lorsqu'elles arrivent au grand public.
On prend un peu de hauteur avec Louis. On se met,
ah bah,
la,
je
tête
remercie,
dans les... on se met la tête dans les nuages.
Non, mais je reviendrai.
C'est juste parce que je parle des nuages. Hein. C'est,
voilà.
C'est
ça, on c'est dirait l'automne, Louis.
C'est vrai qu'il y en a des nuages en plus dans le ciel en ce moment, avec une perturbation qui traverse toute la moitié nord et qui apporte de la pluie en ce moment, de la Bretagne au centre, aux régions du nord-est. Cet après-midi, cette même perturbation s'étalera entre le Val-de-Loire et l'Alsace, du nord de l'Aquitaine jusqu'à la région Rhône-Alpes. Elle n'ira pas plus loin vers le sud. Donc ça veut dire que du sud de l'Aquitaine, Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, on conservera un ciel un petit peu plus lumineux avec a priori peu ou pas de précipitations du tout. Et puis au nord de cette perturbation, donc près de la Manche, au nord de la Seine, on retrouvera quelques éclaircies mais avec encore des averses et toujours beaucoup de vent puisqu'au nord de la Loire, on dépassera encore les 80 km/h, peut-être même 100 km/h du côté de l'Alsace. Le tout avec des températures fraîches, c'est le moins qu'on puisse dire. 11 à 15 degrés seulement dans la moitié nord, hein, sont quasiment des températures de mars, 16
c'est
à 21
poussif.
Degrés, ah, c'est très poussif. Hein,
et demain, ce sera pareil ?
Côté température, c'est la même chose. Hein. Le matin, on sera souvent entre 2 et 6 degrés dans la moitié nord, moins de 10 degrés dans le sud. Et l'après-midi, 11 à 15 degrés dans la moitié nord, comme aujourd'hui. 15 à 19 dans le sud. Ça baissera un peu par rapport à aujourd'hui, avec certes un peu plus d'éclaircies, mais encore des averses. Donc demain, plus de soleil, mais on prend quand même le parapluie. Il pourra servir à un moment ou à un autre, un peu moins près de l'Atlantique et pas du tout près de la Méditerranée.
Merci Louis. Il va être 13h sur RTL dans une poignée de secondes. RTL.
Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le port du masque à l'extérieur est-il encore indispensable? C'est notre question aujourd'hui. Nous sommes avec Marcelin qui est médecin. Marcelin, oui ou non?
Oui, il est nécessaire encore.
Ah bon, bah écoutez, merci. Vous nous avez donné de la joie au cœur. Le rappel des titres avec Christelle.
16 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin, plus de 6 millions 6 les deux doses. Le gouvernement veut accélérer encore la vaccination avec l'arrivée de 5 millions de doses. L'Égypte, plus gros client de Dassault, elle confirme l'achat de 30 avions de combat Rafale supplémentaires à la France. C'est un contrat à près de 4 milliards d'euros qui sera financé par un prêt sur 10 ans. La taxe foncière devrait augmenter de 2 à 3% cette année d'après une enquête de l'Association des maires de France. C'est plutôt la fourchette haute par rapport à d'habitude, mais le Covid a affecté les rentrées fiscales et les maires doivent compenser la quasi-disparition de la taxe d'habitation. Le PSG doit gagner 2-0 en marquant 3 buts ce soir en Angleterre face à Manchester City pour une place en finale de la Ligue des Champions. Quant à l'Euro de foot, l'UEFA autorise les équipes à convoquer 26 joueurs au lieu de 23 habituellement pour faire face au risque de contamination au Covid et de quarantaine. L'Euro, on le rappelle, débute le 11 juin.
Jusqu'à 14h30.